Chapitre 9. Je viens de reprendre connaissance. Je suis allongé comme une bûche sur le sol humide au milieu d'épais buissons. De profondes ténèbres m'environnent. Je n'y vois absolument rien. La tête toujours appuyée contre des branches épineuses, je prends une profonde inspiration. Dans la nuit, je sens une odeur de plantes, de terre, mêlée à des relents de crottes de chien. J'aperçois un bout de ciel entre les branches. Il n'y a ni lune, ni étoile. Pourtant, le ciel est étrangement clair. On dirait que les nuages forment un écran sur lequel se réfléchit la lumière de la terre. Une sirène d'ambulance se rapproche peu à peu, puis s'éloigne. En tendant l'oreille, j'entends aussi des pneus suinter sur la chaussée. Je dois me trouver quelque part en ville. J'essaie de reprendre mes esprits. Pour cela, il faut que je rassemble les morceaux du puzzle de ma personnalité éparpillés autour de moi. J'ai l'impression que ce n'est pas la première fois. J'ai la sensation d'avoir déjà vécu cette scène. Mais où? Et quand? J'essaie de remonter le fil de ma mémoire, mais il se casse tout de suite. Je ferme les yeux et laisse couler le temps. Le temps passe. Soudain, je pense à mon sac à dos. La panique m'envahit. Mon sac? Où est-il? Je ne peux pas l'avoir perdu. Il contient tout ce que je possède. Mais il fait trop sombre, je n'y vois rien. Et quand j'essaie de me relever, je retombe sans force. Finalement, je parviens à soulever mon bras gauche. Pourquoi est-il si lourd tout à coup? Et je le rapproche de mon visage pour regarder ma montre. Les chiffres sur l'écran indiquent 23h26, le 28 mai. Je tourne mentalement les pages de mon calendrier. Tout va bien. La date n'a pas changé. Je ne suis pas resté inconscient plusieurs jours. Quelques heures tout au plus. 4 peut-être. Le 28 mai. Il ne s'est rien passé de particulier ce jour-là, si je me souviens bien. La routine? Je suis allé au gymnase, puis à la bibliothèque Komura. J'ai fait ma série d'exercices sur les machines et ensuite j'ai lu Soseki sur un canapé de la salle de lecture. J'ai dîné près de la gare. Du saumon, je me rappelle, avec de la soupe au miso et de la salade. J'ai demandé un second bol de riz. Et après? Après, je ne me souviens plus de rien. Mon épaule gauche me lance. Au fur et à mesure que les sensations physiques reviennent, la douleur se réveille. J'ai dû heurter violemment quelque chose. De la main droite, je tâte la partie endolorie par-dessus la chemise. Apparemment, il n'y a pas de plaie et ce n'est pas enflé. J'ai peut-être été renversé par une voiture. Mais mes vêtements ne sont pas déchirés. Et je n'ai mal nulle part ailleurs qu'à l'épaule gauche. Je me suis probablement cogné. Je remue un peu dans les buissons. Tâtonne autour de moi. Ma main ne sent rien d'autre que des branches, dures et tortueuses, comme des cœurs de petits animaux torturés. Je ne trouve pas mon sac à dos. Mon portefeuille est toujours dans la poche de mon pantalon. Il contient un peu d'argent liquide et deux cartes. Une de téléphone, l'autre pour ouvrir la porte de ma chambre d'hôtel. J'ai aussi de la monnaie dans mes poches, ainsi qu'un stylo et un mouchoir. Apparemment, il ne manque rien. Je suis vêtu d'un pantalon de coton crème et d'un t-shirt blanc à col en V, par-dessus lequel je porte une chemise en jean. J'ai mes Topsiders bleu marine aux pieds, mais ma casquette de baseball des New York Yankees n'est plus sur ma tête. Pourtant, Je suis sûr que je l'avais en quittant l'hôtel. Elle a dû tomber. Ou bien je l'ai oublié quelque part. Peu importe, on en trouve partout des casquettes de ce genre. Je finis par découvrir mon sac posé contre le tronc d'un pin. Pourquoi l'ai-je laissé là avant de m'enfoncer dans ces buissons et de m'y évanouir? Et surtout, où suis-je? Ma mémoire est gelée. Enfin, l'important, c'est que j'ai retrouvé mon sac. Je sors ma torche, rangée dans une poche latérale, et en vérifie le contenu. Apparemment, il ne manque rien. La pochette contenant mon argent est toujours là. Je pousse un soupir de soulagement. Je jette le sac sur mon dos, écrase quelques buissons, écarte des branches et émerge dans une petite clairière, d'où part un sentier que je suis en éclairant le sol à mes pieds. Je ne tarde pas à apercevoir une lumière et à déboucher dans l'enceinte d'un sanctuaire shinto. Un sanctuaire assez grand, apparemment. Il est éclairé par une seule grosse lampe au mercure qui jette une lumière froide sur le bâtiment, les plaquettes votives et l'urne à offrande. Mon ombre s'allonge étrangement sur le gravier. Je lis le nom du temple sur un panneau de bois et le mémorise. Les alentours sont déserts. J'aperçois des toilettes et m'y rends aussitôt. Elles sont assez propres. Je pose mon sac à dos, me lave la figure, observe mon reflet brouillé dans la glace au-dessus du lavabo. Je m'attendais au pire et je ne suis pas déçu. J'ai vraiment la mine défaite. Je suis blême, les joues creuses, j'ai des traces de boue le long du cou, les cheveux en bataille. Je remarque quelque chose de noir collé sur le devant de mon t-shirt. On dirait un grand papillon aux ailes ouvertes. Je frotte, mais ça ne part pas. Je suis affolé. Mais j'enlève lentement, pour me donner le temps de me calmer, ma chemise en jean, puis mon t-shirt. Sous le néon qui clignote, je me rends compte qu'il s'agit d'une tache de sang. Un sang noirâtre, encore frais et assez abondant. J'approche le t-shirt de mon nez. Aucune odeur particulière ne s'en dégage. Le sang a aussi éclaboussé ma chemise. Mais il y en a beaucoup moins que sur le t-shirt, et comme le tissu est sombre, cela se voit à peine. Sur le t-shirt blanc, c'est autre chose. Je le lave dans le lavabo. L'eau ensanglantée ne tarde pas à rougir la porcelaine blanche. Mais j'ai beau frotter, la tache refuse de disparaître. Je m'apprête à jeter mon t-shirt dans la poubelle, puis me ravise. Quitte à le jeter, mieux vaudrait trouver un autre endroit. Je roule le vêtement en boule, le fourre dans un sac en plastique, mets le tout dans mon sac à dos. Je mouille mes cheveux pour y remettre un peu d'ordre. Je sors mon savon de ma trousse de toilette et me lave les mains. Elles tremblent légèrement. Je prends tout mon temps, me récure soigneusement entre les doigts. J'ai des traces rouges jusque sous les ongles. J'essuie avec une serviette humide le sang qui a suinté à travers mon t-shirt et me colle encore à la poitrine. Puis, j'enfile ma chemise, la boutonne jusqu'au cou, rentre les pans à l'intérieur de mon pantalon. Si je ne veux pas attirer l'attention sur moi, il faut que j'aie l'air à peu près normal. La peur, cependant, me fait claquer des dents. Je ne peux pas m'en empêcher. J'écarte mes mains et les contemple. Elles tremblent encore. On dirait que ce ne sont pas mes mains, mais deux petits animaux indépendants, animés d'une vie propre. Et puis, mes paumes me démangent horriblement, comme si je venais de serrer une barre de métal brûlant. Je les pose sur le bord du lavabo et appuie mon visage contre le miroir. J'ai envie de pleurer. Mais cela ne servirait à rien. Personne ne viendrait à mon secours. Personne.
Allons bon,
Qu'as-tu bien pu faire pour avoir autant de sang sur toi? Qu'est-ce que tu as encore fabriqué? Mais tu ne te souviens de rien, bien sûr. Tu n'es pas blessé. À part cette douleur à l'épaule, tu n'as mal nulle part. Il faut se rendre à l'évidence. Ce sang n'est pas le tien, c'est celui de quelqu'un d'autre. Bon, tu ne peux pas rester ici indéfiniment. Si une patrouille de police te découvrait dans ses toilettes avec tout ce sang, ce serait la fin des haricots. Mais retourner directement à l'hôtel n'est peut-être pas une bonne idée non plus. Peut-être sont-ils déjà là-bas, prêts à te cueillir. On n'est jamais trop prudent. Tu t'es peut-être trouvé mêlé à un crime, à ton insu. Et on ne peut pas exclure la possibilité que ce soit toi, le criminel. Heureusement, tu as toutes tes affaires avec toi. Par prudence, tu t'es baladé partout avec ce gros sac à dos qui contient tout ce que tu possèdes. Cela va se révéler utile. Tu as fait ce qu'il fallait, tu vois? Alors, n'aie pas peur. Tout va bien se passer. Tu es le garçon de 15 ans le plus courageux au monde, non? Aie confiance en toi. Respire calmement. Fais travailler ta cervelle. Et tout se passera bien. Mais n'oublie pas d'être prudent. Le sang a coulé. Du vrai sang. Et en grande quantité. Peut-être qu'on te recherche déjà à l'heure qu'il est. Alors en piste, il n'y a qu'une chose à faire. Un seul endroit où aller. Et tu sais lequel. Je prends quelques inspirations profondes. Endosse à nouveau mon sac et quitte les toilettes. Le gravier crisse sous mes pas. Tout en avançant dans la lumière de la lampe au mercure, j'essaie intensément d'actionner mes méninges. J'appuie sur le bouton, tourne la manivelle. Mais la machine refuse de se mettre en route. La batterie est trop faible pour faire démarrer le moteur. Il me faut un abri sûr, où je puisse me réfugier un moment et rassembler mes forces. Mais où ? À part la bibliothèque Komura, je ne vois pas. Elle n'ouvre pas avant demain matin 11h. Cela fait pas mal de temps à passer. En dehors de la bibliothèque, il n'existe qu'un endroit. Je m'assieds dans un coin discret, tire le téléphone portable de mon sac à dos, vérifie qu'il fonctionne toujours. Et sort de mon portefeuille le bout de papier sur lequel Sakura a noté son numéro. Mes doigts tremblent toujours et je mets un moment à le composer. Heureusement, je ne tombe pas sur un répondeur. À la 12e sonnerie, elle décroche. Je décline mon identité. « Kafka Tamura !» répète-t-elle d'un ton peu amène. « Tu sais l'heure qu'il est. Je me lève tôt demain, moi. » « Je sais que ce n'est pas une heure pour appeler les gens, » dis-je d'une voix tendue. « Mais je n'avais pas le choix. Je suis vraiment dans le pétrin. Et tu es la seule personne à qui je peux tout raconter. » À l'autre bout du fil, le silence se prolonge. On dirait qu'elle analyse le timbre de ma voix. « C'est grave ?» finit-elle par demander. « Je ne sais pas exactement, mais je crois que oui. Aide-moi, juste pour cette fois. Je te promets que je ne te dérangerai pas longtemps. » Elle réfléchit un peu. Elle n'hésite pas, non, elle réfléchit. « Où es-tu ?» Je lui dis le nom du sanctuaire. « C'est à Takamatsu ?»« Je ne suis pas sûre, mais je crois, oui. » « Ça alors, tu ne sais même pas où tu es !» dit-elle stupéfaite. « C'est une longue histoire. » Elle soupire. « Trouve un taxi et fais-toi conduire au Lawson, à l'angle du deuxième bloc du quartier de... Il y a un grand panneau. C'est un drugstore ouvert toute la nuit. Tu ne peux pas te tromper. Tu as de quoi régler la course. »« Oui. » « Tant mieux !» dit-elle. Puis elle raccroche. Je franchis le portique du sanctuaire. Il donne sur une avenue dans laquelle je ne tarde pas à trouver un taxi en maraude. Je donne l'adresse au chauffeur. Par chance, il connaît le Lawson. Je lui demande si c'est loin. « Pas très, » me répond-il. « La course coûtera environ 1000 yens. » Quand le taxi s'arrête devant le Lawson, je tends la monnaie au chauffeur d'une main toujours tremblante. Je reprends mon sac à dos et entre dans le magasin. Je suis venu si vite que Sakura n'a pas encore eu le temps d'arriver. Je m'achète un petit pack de lait, le fais chauffer au micro-ondes, le déguste lentement. Ce liquide chaud qui glisse le long de mon œsophage me réconforte un peu. Au moment où je suis entré, le vigile a jeté un coup d'œil méfiant sur mon sac à dos, mais ensuite, plus personne n'a fait attention à moi. Je reste devant le rayon de magazine, faisant semblant d'en choisir un, et inspecte mon reflet dans la vitrine. Mes cheveux sont encore un peu en désordre, mais les taches de sang sur ma chemise ne se voient pas. Même si quelqu'un les remarquait, il prendrait cela pour une simple tache de saleté. Maintenant, il faut que je m'arrête de trembler. Sakura arrive 10 minutes plus tard. Il est presque 1 heure du matin. Elle porte un sweatshirt gris tout simple et un jean délavé. Ses cheveux sont noués en queue de cheval et elle a une casquette New Balance bleu marine. À l'instant où je la vois, mes dents cessent enfin de claquer. Elle s'approche de moi et me dévisage, comme si elle inspectait la dentition d'un chien qu'elle envisage d'acheter. Elle émet un petit son, entre le soupir et le gémissement, et me donne 2 petites tapes sur l'épaule. « Allez, viens !» dit-elle. Son appartement se trouve à 2 pâtés de maison du Lawson, au premier et seul étage d'un petit immeuble modeste. Elle monte l'escalier devant moi, sort une clé de sa poche et ouvre une porte verte en contreplaqué. Il y a 2 pièces, plus une petite cuisine et une salle de bain. Les cloisons sont minces, le plancher craque, et les rayons aveuglants du soleil couchant sont probablement la seule lumière naturelle qui pénètre dans ce lieu. Quelqu'un tire une chasse d'eau dans un appartement voisin. On entend grincer les portes d'un placard. Mais au moins, il y a de la vie ici. La vaisselle empilée dans l'évier, les bouteilles en plastique vides, les magazines éparpillés ici et là, les tulipes fanées, la liste de courses scotchée sur le frigidaire, les bas négligemment jetés sur le dossier d'une chaise, le journal ouvert à la page des programmes télé posés sur la table, le cendrier et le paquet de Virginia Slim à côté. Étrangement, ce spectacle m'apaise. « C'est l'appartement d'une amie », explique Sakura. « Elle travaillait dans le même salon de coiffure que moi, à Tokyo. Mais l'an dernier, elle est retournée à Takamatsu, sa ville d'origine. Elle est partie en Inde pour 1 mois et m'a demandé de garder son appartement et de la remplacer au salon où elle est employée. Je me suis dit que ça me changerait de Tokyo. Et je suis venue. C'est une fille plutôt « New Age ». Je doute qu'elle ne reste 1 mois en Inde. Elle me fait asseoir devant la table de la cuisine, prend dans le frigo une canette de Pepsi qu'elle dépose devant moi. Normalement, je n'en bois jamais. Trop sucré et mauvais pour les dents. Mais je meurs de soif et je vide la canette d'un trait. Tu as faim ? J'ai des nouilles instantanées, si ça te dit. Je lui réponds que je n'ai pas faim. « Tu sais que tu as vraiment une sale mine !» dit-elle. Je hoche la tête. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?»«
J'aimerais bien le savoir. »«
Tu ne sais pas ce qui t'est arrivé. »« Tu ne sais pas où tu étais. »« Ça va être long à expliquer, » dit-elle, comme si elle alignait simplement les données. « La seule chose dont tu sois sûr, c'est que tu es dans le pétrin. »«
Je suis vraiment dans le pétrin, » dis-je, espérant que mon ton est assez convaincant.
Un silence s'ensuit, pendant lequel elle me dévisage en fronçant les sourcils.
« En fait, tu n'as pas de famille à Takamatsu, hein ? Tu fais une fugue, c'est ça ?»
Je hoche la tête.
« Moi aussi j'ai fait une fugue, une fois, quand j'avais ton âge. Il me semble que je peux te comprendre. C'est pour ça que je t'ai donné mon numéro de téléphone. » Je me disais que ça te serait peut-être utile.
Merci, dis-je.
Ma famille est d'Ishikawa, dans la préfecture de Shiba, près de Tokyo. Je n'aimais pas l'école et je ne m'entendais pas avec mes parents. Alors, je leur ai volé un peu d'argent et je suis parti, aussi loin que j'ai pu. J'avais 16 ans et je suis allé jusqu'à Abashiri, dans l'Hokkaido. Tu imagines ? Je suis entré dans la première ferme que j'ai vue et j'ai demandé aux fermiers de me laisser travailler. Je leur ai dit que je ferais tout ce qu'ils me demanderaient, du moment qu'ils me donnaient un lit et de quoi manger. La fermière était très gentille. Elle m'a fait asseoir, m'a offert du thé. Ensuite, elle m'a laissé attendre un moment, seul. Et pendant que j'attendais innocemment, une voiture de police est arrivée. Ils m'ont embarqué et ramené chez moi. Il paraît que ce n'était pas la première fois que des ados en fugue venaient frapper chez ces fermiers. Après, je me suis dit que, où que je décide d'aller, il fallait que j'aie d'abord un métier. J'ai arrêté le lycée et je suis entré dans une école de coiffure. Et voilà.
Ses lèvres s'étirent en un sourire parfaitement symétrique.
Tu ne trouves pas que c'est assez sain comme manière de penser ?
J'acquiesce.
Si tu me racontais tout, depuis le début !
Elle tire une Virginia Slim de son paquet et l'allume.
De toute façon, je ne crois pas que je pourrais dormir cette nuit. Alors, autant écouter ton histoire.
Et je lui explique tout depuis le début. À partir de ma fugue. Bien entendu, je ne lui parle pas de la prédiction. Ce n'est pas le genre de choses qu'on peut raconter d'entrée de jeu.